Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Damien Abad, accusé de viol par deux femmes, il se dit innocent et n'envisage pas de démissionner. La parole se libère, on n'a jamais autant parlé d'affaires de harcèlement ou de viol. L'Info C'est Clair est intitulé « Violence sexuelle, y a-t-il un problème avec les hommes ?» Nos invités, Audrey Goutard, vous êtes chef de service adjointe, enquête et reportage à France Télévisions. Virginie Giraud, vous êtes docteur en histoire, spécialiste des femmes, de la sexualité, auteur des ambitieuses 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister, c'est chez M6 Éditions. Et puis docteur Marilyn Baranès, vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie, vous êtes spécialiste des traumatismes, vous êtes aussi expert à la Cour d'appel de Paris, vous suivez les personnes victimes d'agressions dans le cadre judiciaire, notamment d'agressions sexuelles. Merci de participer à cette émission en direct. Donc c'était le premier conseil des ministres hier du nouveau gouvernement, mais l'affaire Damien Abad était dans toutes les têtes. Retour sur ce premier conseil des ministres avec Julien Leny et José Boulestex.
Depuis le déclenchement de l'affaire samedi, il n'avait pas pris la parole publiquement.
Bonjour. Merci.
Damien Abad réfute toutes les accusations portées contre lui.
Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre.
Monsieur Abad, vous allez démissionner.
Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Merci beaucoup.
Tentative d'éteindre l'incendie, car plus tôt dans la journée, l'affaire Abad avait déjà largement perturbé le premier conseil des ministres du gouvernement Borne. Installé en face du président Macron, le ministre des Solidarités écoute impassible le chef de l'État.
Avec cette idée de rassembler, d'unir.
Avant d'être assailli de questions à la sortie.
Monsieur le ministre, est-ce que vous allez rester au sein du gouvernement? Est-ce que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad?
Réponse rapide, mais l'affaire a parasité le point presse de la nouvelle porte-parole du gouvernement.
Au sujet de Damien Abad.
Damien Abad.
Damien Abad.
Damien Abad.
Qui formule une réponse calibrée au mot près avec l'Élysée.
La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad.
L'ex-patron des députés LR a été convoqué hier soir par la Première ministre pour un entretien en tête-à-tête. Mais pas de démission prévue à ce stade donc. Une claque pour l'association à l'origine de cette affaire.
Ce que je crains, c'est que ce soit le même processus que celui qui a été à l'œuvre avec Nicolas Hulot. En 2017, il y avait déjà des bruits sur son comportement avec les femmes. Il a été maintenu en poste. Là, je pense que c'est la même chose. Quand on commence comme ça, comment pourra-t-il vraiment être un bon ministre dans le portefeuille qui lui est confié?
Damien Abad affirme vouloir se concentrer sur sa campagne des législatives. Comme tous les ministres, il démissionnera s'il est battu.
Alors Audrey Goutard, ce matin dans le Figaro, Damien Abad dit « Cette plainte ressurgit à chaque moment clé de ma vie. On en avait elle avait déjà ressurgi au moment de la présidentielle, puis on l'avait ajoutée quand je suis devenu président du groupe. » En fait, ça fait longtemps que cette histoire est connue. Nous, on l'a, le grand public et moi-même, et nous-mêmes, on la découvre à l'occasion de sa nomination en tant que ministre. Mais ça fait longtemps que Damien Abad est l'objet de plaintes pour viol et qu'on ne le savait pas, quoi. C'était peu connu, en tout
cas. C'était connu, évidemment, dans l'anderneau politique. Hein, l'entourage de Damien Abad était au courant. Son ancienne famille politique dit même qu'elle était au courant. Donc, oui, elle est dans un certain milieu, comme on dit, on était au courant. C'est vrai qu'à chaque étape où tout à coup Damien Abad est apparu plus publiquement, une élection, une nomination, eh bien effectivement ces affaires sont ressorties. Mais jusque-là, effectivement, vous avez raison, on n'en a pas fait grand-chose finalement. Ouais. Ça a été évoqué, mais ça n'a pas été saisi par les politiques, par l'entourage de Damien Abad pour dire cet homme, on l'écarte parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir un homme politique qui a, comme on dit, des casseroles. Chaque fois, il a été considéré que tant qu'il n'y avait pas jugement, tant qu'il n'y avait pas condamnation, eh bien, Damien Abad pouvait continuer son parcours politique.
Et pourtant, Virginie Giraud, ce matin, Libération dit Abad au gouvernement intenable. On a l'impression que Oui, il n'y a pas eu de condamnation judiciaire, mais que la position de « on attend », elle est compliquée à tenir dans ces affaires d'accusation de viol.
Oui, parce qu'on a envie de probité aujourd'hui. On a envie d'une classe politique qui donne l'exemple, qui n'a donc pas de casserole, comme vous le disiez, et surtout qui ne s'attaque pas aux femmes, puisque le premier quinquennat de Macron était quand même tourné vers la cause féminine, du moins en grande partie. Donc...
Alors néanmoins, pour l'instant, la position du gouvernement, c'est on laisse faire la justice, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de condamnation, mais il semble être condamné avant même finalement que la justice n'ait rendu son verdict. C'est pourquoi hier, Guillaume Pelletier disait « attention, respectons la présomption d'innocence, n'allons pas trop vite ». On écoute le vice-président de Reconquête.
Moi je suis très gêné par cette société de la délation et de l'arbitraire, et je crois qu'il y a un principe sacré en France pour lequel se sont battus... Tant de nos anciens, c'est la présomption d'innocence et le secret de l'instruction.
Ça vaut encore quelque chose, la présomption d'innocence ?
Si on veut basculer dans une société à l'américaine où tout le monde peut dire tout et son contraire sur tout le monde et n'importe qui, continuons ainsi. Si on veut respecter un principe de droit essentiel, c'est tout simple. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Ça, c'est un principe sacré qui permet de respecter chacun. Parce que, admettons, si ces femmes ont raison, Damien Abad sera condamné. Et si elles ont tort ? Et si elles mentent ? Voilà, faut que chacun mesure la gravité de tout ça.
Audrey Goutard, c'est ce qu'on appelle les boules puantes. On peut imaginer que Damien Abad soit victime d'un complot. On sait qu'il fait des blagues lourdes. Ah bah tiens, on va inventer une histoire. Je travaille pour le faire trébucher et ainsi éliminer un gêneur, un concurrent. C'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Ça peut exister.
Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour, nos téléspectateurs et les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire que tout le monde comprend très bien la situation dans laquelle Damien Abad se retrouve et la nécessité, peut-être à un moment donné, effectivement, de publier ces informations. C'est une interrogation sur le travail journalistique. C'est-à-dire que Mediapart sort cette information, la rend publique, finalement. C'était connu d'un landerneau, comme on le disait, mais là, tout à coup, ça devient public. Donc, c'est rendu public à un moment où Damien Abad devient ministre. Qu'auraient dû faire les journalistes ? Est-ce qu'il faut garder ça sous le boisseau tapis. En se disant « bon, on attend une condamnation » ou est-ce qu'il faut le sortir pour que, effectivement, le public, le citoyen, soit au courant de qui est nommé, qui il va élire, etc. Et cette question se pose finalement pour toutes les affaires judiciaires que, les journalistes rendent publiques avant une élection, etc. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il ne faut pas attendre ? C'est qu'on peut se poser cette question. Effectivement, est-ce que Damien Abad est victime d'un complot ? Mais finalement, c'est peut-être, oui, mais l'affaire, elle existe. L'affaire, elle existe, non pas, je ne parle pas d'un viol supposé, je dis simplement une procédure judiciaire.
Il y a des accusations de viol, ça c'est vrai, etc.
Voilà.
Et
donc,
faut le dire.
La question, c'est est-ce que le citoyen doit être au courant ? Moi, à mon sens, oui.
Virginie Giraud, est-ce que dans ces affaires, au fond, il est déjà condamné par l'opinion publique ? Et c'est bien ça le drame, d'ailleurs, non ?
Oui, il y a plusieurs strates, en fait, dans cette affaire. Il y a la présomption d'innocence qu'il faut vraiment, effectivement, sauvegarder parce qu'elle nous protège tout un chacun dans notre société de l'arbitraire, des délations, de la diffamation. Donc, il faut vraiment protéger ça au plus haut point. Or, dans cette affaire, on a une plainte qui est déposée en 2012 et une en 2017. Donc, en plus, on est avant MeToo. C'est ça qui est intéressant. C'est donc que cette jeune femme a quand même pris la peine d'aller devant la police, même si elle n'a pas signé la première plainte, qu'elle a réfléchi. Manifestement, il y a quelque chose. Et puis le SMS existe. C'est quand même très déplacé. Un homme qui a des fonctions politiques, qui envoie un tel message à une jeune fille qui a 22, 23 ans. Donc à un moment, il faut aussi que les hommes se rendent compte qu'il y a peut-être des limites à ne pas franchir et que tous les corps des jeunes femmes ne sont pas à disposition pour les hommes qui seraient au sommet de la hiérarchie sociale.
Sur Marilyn Baranès, sur des victimes injustement condamnées, enfin des gens injustement condamnés, est-ce que dans la vague MeToo, il y a eu, ça, c'est arrivé ça, des gens qui sont, dont le nom s'est retrouvé pris dans les filets de la vague MeToo sur les réseaux sociaux, voire des homonymes, et dont la vie a été gâchée alors qu'ils étaient innocents. Non, mais c'est juste pour établir, c'est pas parce qu'on est accusé qu'on est forcément coupable. Il y a aussi des victimes innocentes.
Non, mais bon, ça sert à ça la justice. Hein. Donc effectivement, quand il y a des vagues, il y a des filets.
Et dans les filets,
de temps en temps, peuvent être accusés des gens à tort. Mais la justice va rétablir la vérité. Donc oui, c'est effectivement extrêmement douloureux d'être accusé à tort. Mais la justice va faire son travail. Néanmoins, je crois que c'est important de comprendre que la justice, c'est pas juste des gens qui, et en l'occurrence des magistrats, qui vont étudier un dossier et qui vont regarder uniquement la question de la preuve. Il y a aussi des expertises psychologiques sur des mises en examen ou sur des victimes. Et cette question de l'expertise, c'est-à-dire d'entendre l'impact traumatique, vient dire énormément de choses à la justice. Et donc, à la question, mais est-ce que des femmes pourraient vouloir monter un complot ? Cette question est intéressante, enfin je veux dire, peut être tout à fait vraie, mais on va vite le repérer dans l'expertise. On va vite le repérer parce qu'un complot, c'est quelque chose qui est prémédité, c'est quelque chose qui est stratégique, et on a beau être le meilleur acteur du monde, il y a des choses qu'un expert, et en l'occurrence un spécialiste de la construction psychique, du traumatisme, etc., va repérer dans l'expertise et va dire « Ah, attention !» Tiens, ce mot-là, cette réaction-là, cette façon de penser ne coïncide pas avec le traumatisme.
Audrey Goutard, ce qui fait la force du dossier, c'est qu'il y a plusieurs témoignages. Et comme le disait à l'instant Marilyn Baranès, quand il y a plusieurs témoignages, ça veut dire qu'il faut se coordonner. Donc, c'est facile de voir s'il y a eu complot dans ce cas-là, non ?
Je sais pas. Facile, je crois pas. Je crois pas que ce soit facile, mais en même temps, dans l'affaire Abad,
c'est qu'il y a plusieurs témoignages.
Oui, absolument.
De femmes qui ne se connaissent pas.
Là, oui, plusieurs témoignages. C'est le cas d'autres affaires, effectivement, où vous avez plusieurs témoignages. Et après, on peut toujours s'interroger sur quel est l'intérêt pour une femme d'aller raconter son viol, un viol supposé. C'est quand même elle aussi se met en avant et joue sa légitimité et sa réputation, si on peut dire. Donc, quel est l'intérêt pour une femme d'aller raconter des bobards aussi graves et aussi énormes ? Bon,
c'est pour ça qu'on dit, a priori, il faut écouter la parole de la victime.
A priori, il faut écouter la parole de la victime, ce qui pendant longtemps n'a pas été fait. Hein, je peux vous dire, pour avoir travaillé, notamment fait de nombreux reportages dans des brigades de mineurs, dans des cellules familiales, de la police, on ne peut pas dire que la parole des femmes était particulièrement écoutée. Alors peut-être que maintenant, il y a un excès contraire, je ne sais pas. N'empêche que dans l'affaire Abad, par exemple, on voit qu'un dossier a été classé sans suite. Donc la justice fait son boulot et effectivement, peut-être dans cette affaire, on a considéré que la parole de la plaignante n'était pas suffisamment fiable, les éléments n'étaient pas suffisamment forts. Donc Damien Abad n'a pas été victime d'une justice injuste, si vous voulez.
Alors vous parliez de cet omerta qui a longtemps régné, de ces paroles de victimes qui n'étaient pas entendues. Eh bien, il y a une affaire emblématique en ce moment, c'est l'affaire PPDA. On en est à 17 plaintes. Les accusations se multiplient. Bah, écoutez, je vous propose d'écouter le témoignage de cette dernière victime entendue dans l'affaire PPDA, bien sûr, sujet de Jocelyne Debrot. Jocelyne Debrot.
Elle a choisi de témoigner plus de 27 ans après les faits. Cette femme, qui souhaite rester anonyme, a déposé plainte hier pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. En février 1995, c'est une jeune journaliste qui vient d'entrer à TF1. Devant les caméras de complément d'enquête, elle raconte avoir été invitée dans le bureau du présentateur. Au bout de quelques minutes, dit-elle, la soirée bascule.
Et là, il se lève. Il fait le tour de son immense bureau. Il vient s'asseoir à côté de moi et il m'embrasse. Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. Je crois que ma tête a dû partir ailleurs. Mon corps était là, mais moi, j'étais plus là. Et là, il a enlevé mon pantalon. Il avait enlevé son pantalon. Et il m'a violée. Puis au bout de deux minutes, il s'est rhabillé. Me suis rhabillée. Et il m'a dit bonsoir, à demain.
Marilyn Baranès, on entend la sidération de cette jeune femme, un peu comme nous d'ailleurs quand on a appris toutes ces histoires. Personne n'imaginait une seconde que cette vedette charmante à la télévision avait ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, fréquemment dans ce genre, qu'on retrouve dans ce genre d'affaires.
Oui, on peut tout à fait retrouver ce genre de profil dans ce genre d'affaires. On peut parler, alors j'évoque les choses de façon très générale, mais il y a une forme de clivage dans la personnalité de ces gens qui sont, vous voyez, Dr Jekyll d'un côté, l'autre face de l'autre, et donc qui peuvent effectivement vraiment au vu et au su de tous être des personnages extrêmement sympathiques. Et à un moment donné, il y a ce clivage chez les gens donc qui ont des personnalités qu'on appelle en général personnalités schizoïdes. Et donc qui tout d'un coup deviennent quelqu'un d'autre. Alors c'est pas des dédoublements de personnalité, mais c'est juste que en fait ils ne font pas de lien entre ces deux facettes d'eux-mêmes. Donc en fait ils peuvent pas vraiment prendre conscience que là ils sont dans quelque chose qui est aussi eux pour dire il faut que j'arrête ça. Donc ils vous disent pour eux qu'en fait non, ils n'ont rien fait.
Mais Virginie Giraud, est-ce qu'ils avaient forcément conscience de mal agir? C'était surprenant d'entendre Nicolas Hulot dire, vous savez, moi j'ai pas besoin de violer pour séduire une jeune femme. C'est un honneur que je procure à ces jeunes femmes que de m'intéresser ainsi à elles.
Exactement. On a là deux parangons des hommes des années 80-90, d'une culture où les hommes étaient très puissants. C'était l'ère des grosses voitures, de l'homme bien rasé, des beaux costumes et des bimbos à côté d'eux. Donc pour eux, c'était normal d'avoir les femmes à leurs pieds. Ils ne se posaient même pas la question, je pense. Et d'ailleurs, chez TF1, personne n'ignorait les agissements de PPDA. Les hommes les cautionnaient et trouvaient même ça assez chic. Ils adoraient voir ces parties de chasse dans l'ascenseur, d'après certains témoignages qu'on a eus. Et puis, les femmes s'entraidaient plus ou moins. Et ça a basculé, notamment avec le témoignage d'une femme qui était proche de la direction de TF1 et qui lui dit « Mais attends, je crois que t'as pas compris qui j'étais ». Et là, il s'est arrêté et effectivement, on a mis le holà pour cette femme-là. Donc ça dit quelque chose aussi de la hiérarchie et qu'on retrouve quelque chose qui, dans l'histoire, est tout à fait réel, c'est que, et puis dans les statistiques aussi, les femmes les plus jeunes sont les proies des violeurs en général. 20-25 ans, elles sont fragiles, elles savent pas dire non, elles ont une carrière à construire. Évidemment qu'elles étaient les proies idoines pour ce type de prédateur.
Audrey Goutard, c'était aussi une époque où on ne se mêlait pas de ces affaires-là. On disait, ça relève de la sphère privée. Ce qu'il fait dans sa chambre à coucher ou derrière son bureau, avec qui il veut, ne m'intéresse pas.
Oui, c'est vraiment, vous l'avez très bien expliqué, c'est vraiment une époque particulière où et qu'on a tous connu, franchement, quelles que soient les sphères économiques. Que ce soit les médias, que ce soit effectivement, moi j'ai croisé dans les ministères, etc. Il y avait cette espèce d'ambiance où le chef avait un droit de cuissage sur certaines jeunes femmes. Et c'est toute l'ambiguïté de ce moment-là. Je l'ai observé notamment dans le monde politique. C'est-à-dire que certaines jeunes femmes ont cru pouvoir évoluer et que c'était les codes pour une évolution.
On va voir une affiche d'un film qui date de 1990 que j'avais vu et ça faisait rire tout le monde à l'époque. Il avait été bien classé au box-office, vous l'avez reconnu,
voilà,
Promotion Canapé. Alors on est allé, on rigolait. Donc c'était connu, accepté et sujet de plaisanterie.
Et c'est pour ça que les hommes qui ont fonctionné de cette façon-là à cette époque ont évidemment l'énorme responsabilité de leurs actes. Mais néanmoins, c'était vrai qu'on peut entendre qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui cette mise en cause, puisqu'à l'époque, ils étaient... Finalement, on se complaisait dans ce fonctionnement et on trouvait ça tout à fait normal et puis même viril. Donc voilà, c'était comme... Enfin, heureusement, tous les hommes ne fonctionnaient pas comme ça, mais c'était les codes de l'entreprise.
Heureusement, tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Bah, écoutez, j'ai quand même fait une petite liste, une petite galerie. Je vais vous citer plusieurs noms. DSK, PPDA, Laurent Bigorne, Nicolas Hulot, Olivier Duhamel, Jean-Luc Lahaye, Denis Baupin, Richard Berry... Harry Habitant, alors toutes ces affaires sont différentes, mais tout ont en commun des violences sexuelles. Et écoutez, moi, quand je vois cette ligne, cette liste, je me dis que cette phrase qu'on nous avait fait hurler à l'époque de Caroline de Haas, quand elle dit, dans l'Obs, un homme sur deux ou trois est un agresseur, on a l'impression, quand on entend une déferlante de noms comme ça, qu'on se demande si finalement elle n'a pas raison.
Je trouve que c'est un peu dur de jeter l'opprobre et l'anathème sur tous les hommes de cette manière. Évidemment, il y a des hommes bien partout. Il y a aussi des hommes qui aiment agresser, qui prennent
plaisir de cette
manière.
Il y en a beaucoup, ce sont toujours des hommes.
Non, après, vous avez peut-être plus de statistiques que moi, mais je crois qu'on peut dire que 95% des agresseurs sont des hommes. Puis je pense que les femmes agresseurs sont plus discrètes aussi et qu'on en parle moins, mais elles existent. Après, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais ça relève de la psychologie et pas de l'histoire.
Alors, Marilyn Baranès. Que pensez-vous là de quand Caroline de Haas dit, écoutez, vu le nombre de femmes agressées, il y en a énormément, bah, faites le parallèle, elles sont agressées par des hommes, et elle dit un homme sur deux ou trois était un agresseur.
Bon, c'est un fait. Alors après,
c'est un fait.
Non, mais un homme sur deux ou sur trois ou 95% sont des hommes. Manifestement, oui, il y a plus d'hommes agresseurs que de femmes agresseurs.
Oui, mais elle, ce qu'elle dit, c'est que il y a beaucoup d'hommes agresseurs quand même. Il y en a un sur deux presque. Il y a deux hommes, il y en a un sur deux qui agresse les femmes.
Après, ça dépend de ce que vous entendez par agresser.
Oui, c'est ça.
Agression.
Bon, je crois peut-être aussi que la question de notre éducation judéo-chrétienne où les hommes sont vont jouer aux voitures, sont les plus forts, ils doivent montrer quelque chose de leur puissance, de leur côté phallique, que les femmes sont plus fragiles. Enfin, cette espèce d'éducation alors qui est probablement quand même en train de changer, mais peut-être qu'à une certaine époque, effectivement, les hommes étaient plus libres, en
voilà.
Tout cas.
C'est, il n'y avait pas de barrière et les femmes qui se plaignaient étaient des bêcheuses.
Donc, peut-être que c'était vu comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y avait pas de limite. Donc, ce n'est pas qu'ils sont intrinsèquement plus agresseurs. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de limite ou que la société nous en donne, mais elles sont quand même très loin, ces limites, chaque homme peut considérer que de mettre une petite main à la fesse gauche de cette dame qui est passée, mais parce qu'on est amis finalement, c'est quand même pas une agression. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est quand même une agression.
Audrey Goutard, est-ce que MeToo est passé par là ou est-ce que l'affaire DSK a été un premier réveil pour la société française en se disant, mais on tolère des choses qu'on ne devrait pas et on rigole de choses dont on ne devrait pas?
Non, je pense pas. C'est étonnant parce que l'affaire DSK, pour l'avoir suivie journalistiquement, je trouve qu'elle a mis en lumière ce que tout le monde imaginait du monde politique. Donc ça a été un coup porté au monde politique. Mais je n'ai pas le sentiment que c'est eu une influence, si vous voulez, sur l'évolution de notre société. En revanche, le mouvement MeToo, évidemment, si c'est assez amusant. D'ailleurs, vous montriez l'affiche de promotion Canapé. Mais si on refaisait revivait des scènes de notre vie quotidienne, de notre vie en entreprise dans les années 90 et aujourd'hui, la moitié de la journée ne se produirait plus. C'est-à-dire que ce soit au niveau des échanges, mais même femme-femme, homme-femme, dans la brutalité des relations professionnelles, dans le langage, un langage beaucoup plus libre et effectivement le corollaire, une relation homme-femme beaucoup plus tendue sexuellement, c'est vrai que tout ça était admissible et tout à fait vécu normalement dans les années 90, et aujourd'hui, ça n'est pas plus possible.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole des femmes est davantage entendue et que les femmes osent davantage dire non, là, ça ne va pas, ou là, tu vas voir, je vais aller porter plainte et je vais être entendue.
Oui, mais ça ne change rien.
Et il en faut du courage, vous le disiez, pour aller porter... Non, tout ça pour vous faire écouter Patrice Evra. Patrice Evra, qui a été violée à l'âge de 13 ans, eh bien, tout grand gaillard qu'il est, hein, tout footballeur vedette qu'il est, il a expliqué que c'était très dur, même quand on est victime, d'oser se plaindre et d'oser raconter ce qu'on a vécu, parce que quand on est victime, on a honte. On écoute Patrice Evra qui raconte pourquoi il n'a rien dit sur le viol qu'il a subi à 13 ans.
Comment on surmonte ce qu'on a vécu à l'âge de 13 ans ?
Je l'ai effacé. Je l'ai effacé à l'âge de 13 ans. Ma mère m'a demandé pourquoi je ne voulais plus dormir chez le principal. J'ai dit non, parce que je ne veux plus humanité sûre. Je ne lui ai rien dit. Et où je me suis senti comme un lâche, c'est quand à l'âge de 24 ans, la police m'a appelé. Je jouais pour l'AS Monaco à l'époque. Et... ils m'ont dit, voilà, on a eu des plaintes sur ce principal, sur des attouchements sur d'autres enfants. On sait que vous avez dormi chez lui. Qu'est-ce qui s'est... Et j'ai dit non. Mais voilà, à cette époque, voilà, tu préfères... t'as peur pour ton image, t'as peur de la réaction des gens, t'as honte de toi, t'as honte de... Or que t'es la victime, hein, mais c'est ce sentiment de honte.
Alors Marilyn Baranès, par quel miracle y a-t-il une inversion des rôles là ? C'est-à-dire que c'est la victime qui a honte et l'oppresseur qui, finalement, parade.
Bon, y a une relation, de toute façon, de toute puissance et de...
Plus que de virilité, en fait, vous mettez en avant la puissance à chaque fois,
C'est-à-dire que la victime déjà, en règle générale, ne s'attend pas à être victime au moment où les choses se passent. Donc, il y a l'effet traumatique de l'effroi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que cet homme est en train de me faire ou de me dire ? Donc, si vous voulez, votre cerveau n'est pas en train de réagir à la seconde, en train de dire « Oh, mais là, tu t'arrêtes là ? Où est-ce que tu mets ta main ?» C'est-à-dire que on n'est pas capable d'anticiper l'agression, en train de se dire bah, « Tiens, cette parole et ce geste, en fait, c'est le début d'une agression qui va être majeure. » Donc, on est dans une stupeur, si vous voulez, qui fait qu'on essaye de raisonner. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le mouvement de défense, c'est-à-dire comment je vais faire pour ne pas m'effondrer et mourir psychiquement si jamais je me mets à avoir peur. Donc, il y a quelque chose de très connu qui s'appelle... Qui a été décrit par Ferenczi, qui était un élève de Freud, et qui s'appelle l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire, en m'identifiant à lui et en n'allant pas me battre avec lui, si je me bats avec lui, ça veut dire que je sais que je suis victime et que je suis en train de me faire agresser. Et là, ma vie est en danger. En tout cas, c'est la sensation qu'on a. En m'identifiant à lui, c'est-à-dire en étant dans cette relation où finalement je vais dire j'ai très très peur, mais... je voudrais pas que les choses empirent, donc je continue à faire ce qu'il me demande en espérant être libérée très très vite. Et ensuite vient effectivement le moment où qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé et que j'ai enfermé dans cette bulle.
En général, on en parle à qui de quand on a été agressé ? À des amis, à la police, à sa famille à...
On ne peut pas en parler dans un premier temps. Et c'est toujours au cours d'un moment dans la vie, alors d'un autre traumatisme, mais qui peut aussi être chez une amie ou quelque chose qu'on a vu à la télé, ou quelque chose qu'on va... Et qui peut ne rien avoir à voir avec l'agression. Vous savez, je travaille à la Salpêtrière, je suis responsable du service psycho-oncologie à la Salpêtrière, et dans la question du cancer, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais très souvent, alors qu'on s'attend à ce qu'on vienne nous parler de son cancer, ben en fait, on nous parle de traumatismes dont on n'avait pas parlé.
Virginie Giraud, il y a aussi le fait que ces histoires de sexe sont souvent tabous dans nos sociétés, tabous dans les familles, hein, on ne parle pas de sexe dans les familles. On est même surpris, là, dans l'affaire Jean-Luc Lahaye, de mères, de fans qui disaient à leur fille « Mais de quoi tu te plains ? T'as la chance d'avoir les faveurs de Jean-Luc Lahaye. »
Non, il ne faut pas être surpris, puisque là, on a des mères qui déportent leurs désirs sur leurs filles puisqu'elles ne peuvent pas avoir accès à la star qu'elles convoitent. Mais effectivement, la sexualité se construit dans nos sociétés sur un tabou. C'est-à-dire qu'on devient humain parce qu'on se fabrique des règles alimentaires par exemple, mais aussi des règles sexuelles. On se soustrait au regard des autres pour avoir une sexualité. Donc, toutes les sociétés se donnent des règles règles, et pour que le sexe ne devienne pas quelque chose de totalement débridé, on va dire que le sexe est une souillure. Ça, c'est quelque chose qui est inventé dans la Haute Antiquité et qui va perdurer dans nos sociétés. Et d'ailleurs, pourquoi cette culture de la honte existe toujours? Emma, elle a 2500 ans, cette culture de la honte, donc on ne va pas en sortir si facilement. Et je vais prendre une minute pour vous raconter l'histoire de Lucrèce qui va fabriquer ce mythe de la honte de la victime. On est à Rome, dans la très haute antiquité, à l'époque des rois, et la femme d'un des princes, qui s'appelle Lucrèce, se fait violer par le prince héritier qui s'appelle Sextus Tarquin. Sextus Tarquin lui fait des avances, comme cette jeune femme est mariée, bien sûr, elle lui dit non, et lui dit, écoute, puisque tu ne veux pas coucher avec moi, je vais te tuer, je vais tuer un de tes esclaves, je vais vous jeter nu dans le lit, et je vais dire que vous avez forniqué. Comme ça, l'opprobre jaillira sur ton mari. Évidemment, elle va refuser cette solution, elle va choisir de se laisser violer avec son consentement, d'où l'arnaque du consentement, pour pouvoir garder la parole et dire ce qui s'est passé. Après son viol, elle prévient son mari et son père, et ensuite elle décide de se suicider en disant cette phrase terrible « Aucune femme ne se revendiquera de Lucrèce pour survivre à son déshonneur ». Cette phrase est terrible parce qu'elle nous dit que socialement, une femme violée n'a pas le droit de se remettre de son viol. Et ça, c'est une malédiction qui pèse sur les femmes et que nous devons briser aujourd'hui.
Audrey Goutard, il y a toujours beaucoup de gêne dans les commissariats pour recueillir la parole de jeunes femmes violées ou de jeunes hommes. Et même vous, ce sont des sujets difficiles à, je sais pas, dans les conférences de rédaction, on dira encore une affaire, t'as pas quelque chose de plus sympa ou de plus grand public, tiens, voilà, de moins gênant, qu'on puisse regarder en famille.
Hein. J'ai pas le sentiment de... Enfin, finalement, une rédaction ou un commissariat sont à la... Ce sont des miroirs de la société. Donc oui, on peut avoir ce genre de réaction. Et oui, dans les commissariats, et c'est d'où l'importance de la formation et de l'éducation, c'est-à-dire que dans les commissariats, face aux victimes, il y a des hommes et des femmes avec leur propre turpitude et leur propre maladresse et leur propre manque d'éducation à ce niveau-là. Et donc moi, j'ai vu effectivement dans des commissariats des accueils de victimes qui se voulaient humains et qui en fait étaient catastrophiques. Par exemple, je me souviens, on avait fait un reportage avec justement dans une cellule spécifique d'accueil de femmes victimes, femmes battues, etc. Et je me souviens d'une jeune femme enceinte de 8 mois qui arrive et qui explique que son conjoint la battait. Et le policier, non, une policière, lui disait, mais bon, ok, une ou deux claques, mais plus que ça. Et en fait, comme la jeune femme ne pouvait pas raconter plus qu'une ou deux claques, elle a renoncé à porter plainte.
Ah ouais.
Et c'était très intéressant parce que la
policière... Il fallait la mettre en confiance pour...
Il aurait fallu, mais surtout, il aurait fallu former la policière qui, effectivement, pensait avoir bien fait le job parce qu'elle lui parlait gentiment, mais c'était... Une victime n'attend pas qu'on lui parle gentiment. Elle attend simplement qu'effectivement, on la laisse parler. Déjà, premier plan, laisser parler, laisser s'exprimer, exprimer ce qu'elle a vécu. Et pour l'instant, notre société a du mal à laisser parler les victimes. D'ailleurs, quelques chiffres quand même, il y a moins de 10 victimes de violences sexuelles et sexistes qui déposeraient plainte. Moins de 10% de victimes qui déposeraient plainte. Ça montre à quel point, si vous voulez, la société n'est pas prête à accueillir cette parole.
Alors, c'est vieux comme le monde, hein, vous le disiez, le tabou du sexe. Il n'empêche, est-ce que les jeunes générations ont un regard... différence sur ces affaires. Sûrement, en tous les cas, les jeunes générations sont confrontées à un autre phénomène qui, malheureusement, se répand de plus en plus dans les boîtes de nuit. Ce sont ces gouttes de GHB qu'on essaye de drogue du violeur, qu'on essaye de vous mettre dans votre verre, voire maintenant des piqûres dans les soirées de discothèques. Regardez ce reportage à Nantes où plusieurs femmes ont été prises de malaise et ont porté plainte après avoir été victimes de piqûres de seringues, sujet de Camille Vorsmer.
Derrière sa platine, Simon Boisseau n'en revient toujours pas. Jeudi soir, la réouverture de son club, la plus grande boîte de nuit de Nantes, a viré au cauchemar.
Pendant cette soirée, on a plusieurs personnes qui sont venues se signaler à nous pour nous dire « voilà, je pense que j'ai pu être piqué par quelqu'un ».
Vers 2h du matin, 10 jeunes femmes se manifestent auprès de l'établissement. Elles évoquent une piqûre dans le bras ou la cuisse, des maux de tête ou encore des vomissements. Des symptômes qui rappellent ceux d'une intoxication au GHB, une drogue inodore versée dans le verre ou bien directement injectée aux victimes.
Ça peut aller très vite, ça peut être très discret et ouais, ça fait peur parce que quand on sait que ça arrive dans des bars pas loin de chez nous, bah ouais, en tant que femme ou même en tant qu'homme, j'imagine, ça fait peur.
Moi personnellement, ça fait 3 ans que je sors plus en boîte parce que j'ai peur de ce qui peut m'arriver en boîte de nuit.
Alors ça c'est incroyable, Audrey Goutard. C'est Laurent Bigorre, d'ailleurs, qui est reconnu, hein, qui reconnaît avoir mis quelques gouttes de GHB. Alors, disait-il, c'est pour que sa partenaire soit plus détendue et... Bon.
Quelle
incompétence. Hein? Alors, on lui a fait remarquer qu'il n'aurait jamais fait ça avec un homme. C'était pour avoir une discussion plus... Mais sauf qu'il l'a fait à son insu. Est-ce que les jeunes, d'ailleurs, vous voyez, elles parlent plus de façon plus libérée. Est-ce que, justement, les jeunes qui ont été élevés post-MeToo, on va dire une génération post-MeToo... Est-ce qu'une génération post-MeToo apparaît, voilà?
Il y a une génération post-MeToo qui apparaît, puis il y a aussi une génération réseaux sociaux qui apparaît. Nous, on n'a pas grandi avec ça. Eux, ils ont l'habitude de déverser leurs sentiments, leurs émotions, leurs aventures en permanence dans l'espace public et virtuel que sont les différents réseaux qu'ils utilisent. Et on voit fleurir des choses qui viennent remplacer la justice là où, malheureusement, elle ne parvient pas à être assez rapide et assez efficace. Des comptes tels que Balance ton violeur, Violeur France, que l'on va trouver notamment sur Instagram, où les jeunes filles vont venir, majoritairement des jeunes filles, vont venir raconter ce qui leur est arrivé. Donc, d'un côté, c'est intéressant d'un point de vue sociologique de voir ça qui arrive, parce qu'elles parlent, elles n'ont plus peur de parler. Mais au lieu de parler devant la police et d'attendre la justice, elles se répandent sur les réseaux sociaux, donnent le nom de leur violeur, que ce soit vrai ou pas vrai, à la limite, on s'en fiche, mais c'est très dangereux pour la démocratie. Par contre, ce n'est pas de leur faute, c'est le symptôme d'une justice qui ne fonctionne pas suffisamment bien.
Les sites de rencontres aussi, est-ce qu'ils ont changé notre rapport à la séduction ? Au fond, vous diriez aussi, parce que je caricature un peu, autrefois, on draguait plus ou moins finement, plus ou moins, voilà. Maintenant, on va sur un site, on met pouce levé ou pouce en bas, c'est comme ça, hein, non ?
C'est sweep,
on sweep, voilà, toi, next. Est-ce qu'on n'a pas un rapport de consommation un petit peu, tiens, je vais prendre aujourd'hui un...
Bien sûr, mais on n'est pas sur les problèmes d'agression sexuelle, il faut savoir
que sur
les
sites... Ah bah non, c'est pas agressant, là, on fait ça et hop, next.
Sur les sites de rencontres, 20% des hommes captent 100% des femmes. Donc déjà, il y a 80% d'hommes qui vont rester sur le carreau, d'une certaine manière. Et après, on sait... Bah oui, les moins intéressants. Ouais. Les plus jeunes et ceux qui gagnent le moins d'argent, statistiquement. Et statistiquement, on sait où c'est aussi.
Donc il y a une terrible frustration, là, parce que tiens, je n'ai pas accès à toute cette galerie.
Et bien sûr,
c'est partenaires qui m'ont l'air très agréable.
Et c'est l'inverse pour les femmes. Plus elles vieillissent, plus elles sont diplômées, moins elles attirent les hommes. Hein. Elles font peur, sans doute.
Ah ouais.
Mais tout ça pour dire qu'on sait par les stats, notamment de l'IFOP, que les sites de rencontres favorisent le hooking, c'est-à-dire la prise du premier soir. On sait que si vous arrivez à rencontrer une femme, vous avez 60% de chances de coucher avec elle le premier soir. Donc évidemment, on est dans quelque chose qui relève davantage de la consommation de l'autre que de la fabrication du lien.
60% le premier soir.
Ah, ça vous a si vous arrivez à réfléchir.
Il faut aller au hooking. Marine Baranès. On parlait de la drogue, mais en dessous de la drogue, il y a l'alcool. Est-ce que l'alcool peut nuire au consentement sain et éclairé ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dire « tiens, tu reprendras bien un verre », etc. Est-ce qu'il y a un moment, je dis ça parce qu'il me semble que dans les pays d'Europe du Nord, on peut considérer qu'on a été violé si l'autre vous a fait un peu trop boire. Est-ce qu'il y a matière à réflexion sur cette notion d'être... parce que est-ce qu'il faut du coup se draguer au réveil complètement à jeun et de façon hygiéniste?
Écoutez, dans les tribunaux, en tant qu'expert, j'ai souvent vu des procès et des victimes raconter que, oui, c'est vrai, elles ont bu, mais qu'elles étaient... Voilà, on était dans un contexte de soirée, elles sont jeunes, ou moins jeunes, mais en général, elles sont jeunes, elles étaient avec des amis, puis ils ont pris un verre, puis deux verres, et puis... Elles racontent que tout le monde buvait et que oui, elles n'ont pas de raison de refuser les verres. Et donc, les agresseurs disent, mais attendez, moi, quand je ne l'ai pas agressée, elle m'a dit OK. Et donc, tout l'enjeu se trouve là, parce que elles ont bu, mais alors, je t'ai pas forcé à boire. Et donc, tout devient un petit peu compliqué là, parce qu'en fait, quand on est trop alcoolisé, effectivement, c'est très difficile... De reprendre ses esprits alors qu'on est ivre et de dire écoute là je t'ai dit non donc on n'en est plus en capacité donc ça devient très très compliqué.
Il y a ce terrible film là avec le fils d'Yvan Attal et de Charlotte Gainsbourg qui montre qu'une même scène finalement à partir d'une même réalité on peut avoir deux interprétations. La fille estime qu'elle a été violée et le garçon dit non, j'ai été un peu rentre dedans comme je le suis avec dans cette ambiance festive où on déconne un peu.
Mais c'est un peu le syndrome de la jupe trop courte. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a reproché aux filles qui se révélaient, bah, elle n'avait qu'à pas porter une jupe si courte. Bon. Donc, et pendant longtemps, et ça n'est que récemment, que par exemple le fait, dans le cadre d'un viol, mais comme d'un accident de la route, avant le fait d'être alcoolisé était plutôt un facteur disculpant. C'est-à-dire qu'on considérait que la personne qui avait violé ou qui avait écrasé un piéton... Finalement, bah, c'était pas vraiment de sa faute
puisqu'elle
elle avait bu un coup de trop, elle n'était pas voilà. Donc heureusement, la loi a changé. Mais néanmoins, vous voulez, on peut toujours se dire que oui, les femmes qui ont picolé un homme qui a bu, bon, bah voilà, ambiance festive ou pas. Le fait est, c'est quand on dit non, c'est non quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut apprendre à nous.
Alors, en même temps, ce qui est compliqué, c'est que souvent l'alcool permet un petit ou un verre ou deux permet de briser la glace et d'entretenir.
Non, mais briser la glace.
Mais là,
oui,
vous voyez, il y a des rappels, non.
Non, c'est non.
Mais, voilà. mais on voit bien le phénomène du non. On le voit justement dans l'expertise. Hein, ouais. Psychologique des victimes, parce que si elles avaient vraiment bu un coup de trop et qu'elles se rendaient compte de rien, on n'aurait pas eu dans l'expertise l'effet traumatique. Or, quand elles racontent, donc elles ont effectivement bu, elles ont dit non, mais alors bon, le gars a dit, bah non, c'était pas un vrai non, voilà, etc. Mais par contre, on retrouve dans l'expertise vraiment toute la symptomatologie et toute la sémiologie du traumatisme. Et là, on se dit, bah en fait, c'était un vrai non. Alors, il n'a pas voulu l'entendre comme ça, mais sinon, elle n'aurait pas été traumatisée.
Virginie Giraud.
Et j'en reviens effectivement à cette arnaque qui est le consentement, parce que consentir, ça veut dire être d'accord avec. Or, un rapport sexuel, ça se désire. Et comment voulez-vous que les jeunes femmes soient capables de dire non quand on leur explique pendant toute leur vie qu'elles ne peuvent pas désirer, mais seulement consentir au désir de l'autre ? Donc je pense que quand on aura rayé...
Question d'éducation.
C'est ça. Oui. Quand on aura rayé ce mot de consentement de notre vocabulaire pour parler du désir, on fera vraiment avancer la cause des femmes.
Alors, sans même aller jusqu'au viol, il y a ces harcèlements de rue qui pourrissent la vie au quotidien de centaines de milliers, voire de millions de jeunes filles. Vous savez qu'en Belgique, il y a une brigade qui va sanctionner les harceleurs qui, comme ça, se permettent de siffler une jeune fille parce qu'elle a une jupe un peu trop courte. C'est un sujet de Julien Gasparuto.
Elle se promène dans les rues de Liège comme n'importe quelle jeune femme. Mais en réalité, Laura Genbeauf est policière et elle va servir d'appât pour verbaliser les harceleurs de rue. Derrière elle et à bonne distance, trois collègues en civil.
Je te laisse partir un peu en avant, Laura, ça va ? Comme ça, t'es toute seule.
Sur la place principale, ces deux hommes assis sur un muret tentent de l'aborder en commentant son physique.
Messieurs, bonjour.
Les policiers interviennent.
C'est la police ? Ma collègue est assermentée, elle a très bien entendu. C'est pour ça qu'elle m'interpelle, donc vous pouvez dire...
J'ai dit, madame, mademoiselle, vous êtes jolie.
Elle est jolie, celle-là, en regardant ma collègue.
L'homme tente de minimiser, mais pour l'inspectrice, il s'agit bien d'une infraction.
En me désignant par celle-là, en le disant assez fort pour que je l'entende et me mette mal à l'aise, oui.
Et très vite, le ton monte.
La moindre des choses, c'est de dire à la demoiselle, c'est vrai qu'effectivement, j'ai peut-être eu des paroles déplacées, je m'en excuse, je ne savais pas que c'était...
Je ne m'excuse pas parce que je parle pareil, parce que moi, je ne peux pas, elle
n'est pas jolie. C'est gentil. Je vais le verbaliser, vous serez entendu et vous irez vous expliquer au parquet. Pour nous, ça consiste déjà en harcèlement de rue. Maintenant, ce sera au tribunal de statuer si il punira ou pas.
Les policiers poursuivent leur opération dans ce parc. Cette fois, c'est l'inspectrice qui est témoin d'une infraction. Un jeune garçon s'est brusquement interposé devant une adolescente pour l'aborder.
Monsieur, la fille a tellement eu peur qu'elle s'est reculée de vous. Hein.
Vous avez fait une action qui l'a mis mal à l'aise, qui l'a fait peur.
J'ai fait ça, la reculée à 10 mètres.
Mais justement, parce qu'elle a eu peur, monsieur.
Vous auriez pu lui faire peur.
Non, parce que moi, monsieur, j'aurais fait ça avec mon épouse, je ne serais pas marié. Hein.
Les policiers tentent aussi d'éduquer les plus jeunes. L'inspecteur appelle les parents et rappelle la loi à l'adolescent, très gêné.
J'ai pas voulu qu'elle se sente mal alors que c'était pas mon intention.
Ça peut faire réfléchir ?
Oui, oui.
De son côté, la jeune victime approuve la démarche.
Oui, je trouve ça bien. Ça se passe assez quotidiennement. Et pour toutes les filles, pour toutes mes amies aussi, ça se passe assez souvent.
Chaque journée d'intervention conduit à une dizaine de verbalisations. Et c'est en se fondant sur le quotidien des policières elles-mêmes que la commissaire a imaginé ce dispositif.
C'est vrai qu'ici, on a des collègues fort jeunes qui, lorsqu'elles sont en civil, que ce soit parce qu'elles vont courir sur le temps de midi, parce qu'elles font des plans d'action en civil, ou même dans leur vie privée, sont souvent confrontées à ce type de faits. Et je pense que, comme toutes les femmes l'ont un peu intériorisé et ne se rendent plus compte du caractère déplacé et dérangeant de ce type de faits.
Marilyn Baranès, de nombreuses femmes voient leur vie empoisonnée par ces sifflements à répétition. C'est quoi ? C'est on a mal éduqué nos garçons et c'est un appel à tous les parents que vous lancez, qu'on pourrait lancer là.
Oui, c'est la question des limites. Alors peut-être aussi qu'il faut apprendre à parler sexualité. Tout à l'heure, vous disiez à juste titre, dans les familles, enfin c'est un sujet un peu tabou. Donc peut-être qu'il faut apprendre tout petit, très jeune, à parler de la question de la sexualité, de la question de la séduction, de la question du désir, de la question, alors effectivement, non pas du consentement, mais du désir d'eux, etc. Et que du coup, ça permettrait aux jeunes adolescents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'adolescence, il y a aussi la question de l'interdit. On a besoin d'aller se confronter à l'interdit. Donc, mais l'interdit, il est d'autant plus interdit qu'il est tabou. Donc, peut-être qu'on passerait à d'autres interdits si c'était moins tabou de parler de sexualité et de respect, etc.
Audrey Goutard, on voit bien que les deux jeunes garçons, ils sont cueillis, qu'on leur reproche ce comportement, qu'ils ne jugent aucunement inapproprié. Mais quand même, il y a toute une prise de conscience à voir. C'est comme PPDA qui probablement était persuadé qu'il ne causait aucun mal, mais que c'était un honneur qu'il accordait
c'est,
ainsi.
C'est très intéressant. Moi, j'ai eu cette conversation il y a quelques jours, pour tout vous dire, avec ma fille de 15 ans et ma mère de 75 ans. Et c'était très intéressant parce que ma mère, d'un côté, disait « Enfin, si on ne peut plus siffler dans la rue une jolie femme, etc., c'est quand même la fin des haricots. » Et ma fille de 15 ans qui trouvait extrêmement choquant l'idée qu'on puisse siffler dans la rue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ces comportements qui peuvent être jugés anodins ont des conséquences. Ma fille de 15 ans ne sort pas seule le soir dans la rue parce que je ne veux pas qu'elle se fasse aborder, accoster, etc. Mes garçons, lorsqu'ils avaient 15 ans, je les laissais sortir dans la rue le soir. Et en fait,
donc, il y a un couvre-feu pour les filles.
Mais bien sûr qu'il y a un couvre-feu pour les filles. Et encore, moi, nous habitons à Paris, mais je peux vous dire que dans certains quartiers de banlieue, dans des quartiers difficiles, les filles sont enfermées chez elles, non pas parce que les parents souhaitent les enfermer sociologiquement, mais parce que les parents ont peur et que les filles ont peur. Et donc, au résultat, ce n'est pas juste siffler, c'est avoir un comportement qui met les femmes dans une situation de danger, évidemment, parce que ça dépend qui siffle. Si c'est un gamin de 15 ans qui siffle une fille parce qu'il la trouve jolie de loin, c'est pas très grave, c'est vrai. Mais si c'est un homme de 45 ans ou de 50 ans qui siffle une fille de 15 ans et puis qui l'aborde en lui demandant son 06, c'est un vrai souci.
Virginie Giraud, l'autre jour, le maire de Grenoble disait « Ma fille revient des États-Unis et en France, elle avait oublié qu'on ne peut plus sortir avec une jupe un peu courte ou un chemisier un peu court parce qu'on se fait sans arrêt siffler ». Est-ce qu'il y a des sociétés où est-ce que les pays latins ont un problème plus aigu que les pays du Nord ?
Oui, c'est pas la même chose. Quand j'avais 20 ans, j'ai été au Canada, j'étais étonnée de voir que j'aurais pu me balader nue dans la rue sans que personne m'aborde. Il y a vraiment un différentiel culturel, nous on n'est plus latins. Mais on voit surtout dans l'exemple qui a été donné en Belgique, des sociabilités masculines très juvéniles, très immatures, qui agissent en meute pour se prouver qu'ils sont des hommes forts face à des filles qui ont l'air un peu fragiles. Le but, c'est même pas de les pécho quelque part, c'est pas d'avoir des relations avec elles. Le but, c'est de se sentir puissant par rapport à une femme qui se trouve sans défense. Et là, encore une fois, on revient à des systèmes de pensée qui sont archaïques en Occident et au Moyen-Orient. Et on peut prendre l'exemple de Télémaque dans les mythes antiques. Télémaque, le fils d'Ulysse, devient un adulte quand il est capable de dire à sa mère Pénélope « Tu te tais, c'est moi qui prends les choses en charge ». Et c'est ça qu'ils sont en train de rejouer.
Eh bien justement, et si on inversait les rôles ? Et si les harceleurs étaient des harceleuses ? Et si les victimes étaient des garçons qui se faisaient siffler parce qu'ils avaient des pantalons un peu trop courts ? Eh bien, c'est l'exercice très amusant auquel se sont prêtés Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoine. Regardez, on se régale.
Salut les garçons.
Salut.
Ça va?
Ça va?
Ouais, ça va, Yvon.
Très, très, très mignon, ce petit nœud de cravate. Ouais. C'est une excellente idée, ça.
Merci.
Ouais, c'est mignon. Et ce jean, Fred, on peut dire qu'il te met bien en valeur. Regarde, Anne-Elisabeth. Vivement le printemps, les petites chemises cintrées, les gars. Hey, vous êtes super beaux aujourd'hui. Vous avez rendez-vous avec la direction? J'ai l'impression que vous avez quelque chose à demander.
Ça va, on vous dérange pas trop?
Bah non.
Bientôt, on va nous demander de venir bosser en slip. Ouais.
Mais pourquoi pas? Bah oui, bonne idée. Partez pas.
Vous êtes lourdes, les filles.
Ils sont susceptibles, on peut plus rien dire. Mais revenez.
Mais oui. En France, 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des remarques sexistes au travail.
Voilà, et ça doit tous nous faire réfléchir. Ainsi se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée. À demain sur France Info.